Et j'ai mis vachement de temps à comprendre que je me ferais pas de conviction sur ces deals-là, que c'était pas pour moi. Et quand tu regardes le test, en fait, c'est le truc, il est évident. Et enfin, c'est quasiment marqué noir sur blanc de faire passer ce test aux nouveaux investisseurs. En fait, ça permet de former les pairs de manière beaucoup plus intelligente. Et je pense, enfin, c'est une évidence que c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille.
Aujourd'hui, nous allons voir que le gut feeling n'est pas si bullshit qu'on le croit. Certains VC ont des intuitions qui rapportent des milliards. Et encore une fois, c'est lié au fonctionnement de leur cerveau. Bienvenue dans Iceberg, je suis Mathieu Nasri, cofondateur d'Unfair. Chez Unfair, nous avons créé les Baseball Cards, une synthèse des biais d'investissement d'un VC. Dans cette série, je résume 5 ans de découvertes sur les biais d'investissement. Comme pour chaque épisode, je donnerai d'abord une explication théorique, puis dans un second temps, un investisseur, aujourd'hui Stanislas Lott de chez Daphni, nous expliquera l'impact concret de ce biais dans son quotidien. Comme nous l'expliquions dans le premier épisode de cette série, le biais de projection nous pousse à sélectionner des personnes qui nous ressemblent, ou plus particulièrement, qui ont des traits similaires aux nôtres. Par exemple, je suis organisé, et sans même m'en rendre compte, je cherche des personnes elles-mêmes organisées. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'analyser les talents d'un entrepreneur. Si vous êtes très bon en exécution, que vous avez tendance à agir immédiatement, sans penser au futur, il sera bien plus facile pour vous de détecter une forte capacité d'exécution chez un entrepreneur, ou même son absence de capacité d'exécution. Ainsi, un VC lui-même bon en exécution analysera plus facilement et plus justement la capacité d'un entrepreneur à faire de même. Quand on a cette sensibilité, on a une avance sur ceux qui ne l'ont pas, évidemment. Mais qui dit talent, dit aussi limite. Un investisseur très bon à analyser l'exécution analysera moins bien la vision, par exemple. Ces différences de capacité à analyser certains talents d'entrepreneurs sont fondamentales. Plus un VC a lui-même de talents entrepreneuriaux, plus il sera capable d'être séduit par les bons profils d'entrepreneurs. Certains trouveront cette idée peut-être simpliste. Pourtant, après avoir analysé 78 investisseurs et 812 de leurs investissements, nous avons observé une forte corrélation entre les profils de l'équipe d'investissement et les entrepreneurs choisis. Par exemple, les fonds ayant beaucoup de profils vision sélectionnent plus d'entrepreneurs vision que la moyenne. On a pu déterminer que l'absence d'un profil vision dans une équipe est la première raison d'échec d'une équipe. Cela représente 79,9% des cas selon nos données. Sachant cela, avoir une équipe de VC capable de détecter et d'être séduit par la vision a un impact direct sur la performance des investisseurs. Pour autant, la diversité des capacités d'analyse est nécessaire. Mais ce n'est pas la diversité telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est une diversité qui doit être ciblée et ciblée sur le comportement des investisseurs afin d'avoir une réelle complémentarité. Vous trouverez plus d'éléments sur les corrélations entre neurologie et performance d'investissement dans notre étude en description. Alors, comme je l'expliquais en introduction, je suis aujourd'hui avec Stanislas de Daphni. Salut Stan.
Hello Mathieu.
Alors, peut-être je vais te laisser dans un premier temps, Stan, te présenter et puis présenter Daphni.
Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Du coup, Stanislas, moi je travaille chez Daphni depuis 5 ans maintenant. Daphni, c'est un fonds d'ici assez récent. On a été créé il y a 5 ans. On a une thèse qui est secteur agnostique, donc on investit dans des domaines hyper variés qui vont de l'ordinateur quantique au Web 3, en passant par la PropTech, l'InsurTech, le B2B SaaS, enfin les plateformes. C'est extrêmement varié et notre spécificité, c'est qu'on est basé sur une communauté. Donc, on est 20 personnes en interne, mais on s'appuie sur une communauté de 300 personnes qui sont globalement nos investisseurs, donc beaucoup de corporate et surtout des entrepreneurs qui sont les entrepreneurs dans lesquels on a investi et qui sont des experts sectoriels, c'est-à-dire des experts en cybersécurité, en santé, en réalité virtuelle, en Web 3. Et l'idée pour nous, c'est de s'appuyer sur cette diversité de talents et d'expériences pour accompagner les entrepreneurs dans toutes leurs requêtes, qui sont souvent un petit peu les mêmes, à savoir comment je vais à l'international, comment j'organise mon équipe de sales, comment je peux atteindre tel corporate, par exemple. Et l'idée, c'est de les accompagner. Donc nous, on intervient assez tôt. On intervient en seed série A avec des tickets qui vont jusqu'à 5-6 millions d'euros. Et l'idée, c'est de les accompagner dans la durée. Et parmi les entreprises qu'on a accompagnées récemment, il y a des entreprises comme Back Market, comme Swile, comme LeoCare. Et je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui.
Trop bien, et beaucoup de secteurs différents sur lesquels évoquer le sujet des biais. Du coup, Stanislas, tu as fait justement l'analyse des biais d'investissement qu'on propose chez Unfair. Et justement, j'expliquais en intro que chaque investisseur a des capacités à détecter certains talents plus que d'autres chez les entrepreneurs. En recevant cette analyse, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir finalement sur quel domaine, quel type de talent d'entrepreneur tu es le plus légitime?
Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que c'est très juste et c'est assez troublant qu'avec un nombre limité de questions et finalement de questions qui soient assez simples d'être percé à jour comme ça. C'est super intéressant. Moi, ce qui ressort, c'est que j'ai un biais sur l'exécution et je trouve ça très juste. Je pense que c'est un des facteurs que je regarde en priorité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce dans quoi il faut qu'on progresse. Un des trucs intéressants, c'est que chez Daphné, on travaille toujours à deux sur tous les dossiers, que ce soit des gens seniors ou juniors. Et c'est très intéressant de voir que nous, on va se concentrer sur des choses qui sont un petit peu différentes les uns des autres. Chacun va avoir un point de vue. Et je pense que moi, c'est un des sujets qui peut m'amener à travailler avec des gens qui ont des profils justement qui soient complémentaires du mien. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle. Moi, je sais que il y a certains partenaires ou il y a certains juniors avec lesquels j'aime bien travailler parce que je sais que moi, je vais être extrêmement rationnel sur l'analyse du marché. Je vais être extrêmement rationnel sur dans quel sens va le marché, sur comment il faut exécuter, sur je vais avoir une analyse là-dessus qui va être assez fine et que eux vont apprécier. Et moi, j'aime bien confronter les points de vue sur l'équipe. Je sais qu'il y a des remarques qui sont faites quelquefois sur certains membres de l'équipe où je me dis « Ah oui, ça, ce truc-là, j'avais pas vu. » Et je trouve ça super intéressant. Et en fait, c'est un comportement qu'on a de manière naturelle d'aller s'associer avec des gens qui sont complémentaires de nous. Et en fait, d'être capable de rationaliser ça et de mettre des points objectifs dessus. Je trouve ça super intéressant. Et tu vois, un des trucs qui m'a marqué d'ailleurs sur ces sujets-là, c'est que ce qui ressortait, donc c'est que je favorisais l'exécution. Et en fait, quand je fais le bilan des investissements que j'ai poussés ou que j'ai fait assez récemment, en fait, il y a EMEA dans les travaux de rénovation, c'est vraiment business purement d'exécution. Il y a Mastéos dans l'investissement locatif qui est purement de l'exécution aussi. Il y a Léo Kerr dans l'assurance qui est quand même très focus exécution. Et c'est, je l'ai jamais rationalisé comme ça, mais je trouve ça super intéressant de voir qu'en fait les business avec lesquels j'ai été le plus à l'aise assez récemment et sur lesquels je me suis formé la conviction la plus forte, c'est des business qui sont hyper portés sur l'exécution.
Et c'est intéressant que tu dis ça, et je reviens à ce que tu disais juste avant, c'est que tu avais l'air de dire que quand les autres personnes de ton équipe ou d'autres investisseurs évoquent certains sujets, j'ai l'impression que tu, d'une certaine manière, benchmarkais ça par rapport au fait que eux sont peut-être un profil et des fonctionnements différents du tien, et donc peut-être ça impacte leur opinion et de fait le tien. J'ai l'impression que ça a été un prisme de compréhension des autres et de soi-même en investissement. Différent pour toi. Je sais pas si c'est le cas.
Ouais, non, mais c'est clair. Et en fait, j'ai mis un peu de temps. Tu vois, mon point, c'est que j'ai mis un peu de temps à comprendre ça. Tu sais, il y a des gens dans l'équipe qui ont fait des deals en deep tech qui sont vraiment top. Mais tu vois, franchement, je les aurais pas fait. Et j'ai mis vachement de temps à comprendre que je me ferais pas de conviction sur ces deals-là, que c'était pas pour moi. Et quand tu regardes le test, en fait, c'est le truc, il est évident. C'est quasiment marqué noir sur blanc. Et je trouve ça super drôle. Tu vois, nous, on avait fait d'autres tests dans l'équipe, on avait fait les MBTI, enfin des trucs un peu qui sont moins adaptés, classiques, mais qui sont moins adaptés, moins spécialisés sur tout ça. Il y a une ressortie des choses intéressantes, mais je pense qu'aujourd'hui, avec votre méthodo de classement, enfin avec votre méthodo sur d'analyse, je pense que je peux quasiment décrire l'équipe et je trouve ça super intéressant d'avoir cette grille d'analyse là, quoi.
Et c'est super intéressant. Et justement, est-ce que ça te permet, toi, ou quand tu vois d'autres personnes, de te faire une conviction plus facilement ou plus rapidement, je sais pas si c'est les bons termes, sur des sujets en se disant, bah, ça, je sais que c'est un business exécution, c'est mon domaine de prédilection, je filtre mon opinion ou je peux me faire une opinion plus précise, plus vite?
Je pense que c'est intéressant dans la distribution des dossiers. Tu vois, nous, on a eu, ça fait au moins 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans qu'on a la même équipe d'investissement. Donc, il y a des gens qui s'ajoutent, mais que globalement, ce sont les mêmes personnes qui travaillent ensemble. Et tu vois, cet élément-là qui s'est fait de manière naturelle et un petit peu empirique, en fait, je pense qu'il peut être accéléré de manière incroyable. Tu vois, de faire passer ce test aux nouveaux investisseurs, en fait, ça permet de former les pairs de manière beaucoup plus intelligente. Et je pense, c'est une évidence que c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille. Pour répondre de manière plus précise à ta question, est-ce que moi, ça a changé et ça m'aide à me faire une conviction plus vite? Ça m'aide à choisir les sujets que je vais regarder plus vite, ça c'est sûr, parce que c'était déjà un phénomène qui est en place et je pense que c'est un phénomène assez classique. Au fur et à mesure que tu progresses, tu sais les sujets sur lesquels tu vas être capable de te faire une conviction, parce que le métier, c'est pas de classer les deals. Le métier, c'est de sortir sur les 1000 deals que tu vois dans l'année les 4-5 sur lesquels t'as la plus grosse conviction, quoi. Et ça, c'est sûr que c'est un outil d'aide pour ça. Et je pense que c'est un outil d'aide aussi sur les deals sur lesquels tu sais pas te faire une conviction pour dire, en fait, c'est pas qu'il faut pas le faire. C'est juste que j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de tel type de personne avec moi pour le deuxième meeting parce que je sais que cet élément-là, je suis moins bon dessus. Et je sais pas si ça m'aide à me faire une conviction plus rapidement, je suis pas sûr. Par contre, je pense que c'est plus une question de filtre et une question de comment on combine les talents des uns et des autres, quoi.
D'une certaine manière, on pourrait rater moins d'opportunités, si je puis dire, si on fait ça plus régulièrement.
Bah exactement, parce qu'il y a un gros défaut dans ce métier, c'est que comme tout le monde est un petit peu passionné, bah, en fait, t'as envie de regarder un petit peu tous les deals. Et en fait, de se dire, ok, qui sont les personnes légitimes pour regarder cette équipe, et d'aller un petit peu au-delà des marchés et d'aller plus sur la vision, le business, d'essayer de décomposer le deal dans sa complexité, quoi.
Et tu disais justement que toi, tu étais très exécution. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, dans le sens, a posteriori, effectivement, tu dis c'est cohérent par rapport aux investissements que tu as fait? Est-ce que quand tu l'as reçu, c'est quelque chose qui t'étonnait, ou plutôt c'était une évidence pour toi d'être plutôt exécution, par exemple?
Non, c'est marrant, c'est le truc, c'est plus dans l'autre sens où tu vois, c'est ce que tu disais en introduction, que quand t'es focus sur l'exécution, tu peux avoir tendance à regarder un petit peu moins la partie vision. Je l'ai plus pris dans l'autre sens. J'étais très étonné de ça, parce que justement, j'avais l'impression de bien projeter les marchés, et que du coup, en projetant bien les marchés, j'avais une bonne visibilité, j'avais une bonne compréhension de ça. Je me souviens t'avoir posé 2-3 fois la question pour être sûr de comprendre ce que ça voulait dire, ce point-là. Et c'est celui-là qui m'avait surpris. Et donc maintenant, je pense que je le comprends un petit peu mieux, et je pense que je suis plus attentif à ça, justement, à pas sous-estimer ce point-là par rapport à l'exécution sur les 12-18 premiers mois où je sais que naturellement je vais me pencher là-dessus. Donc à posteriori, je peux pas dire que ça m'est surpris, parce que franchement, c'est très juste, et autant sur les qualités que sur les défauts, je pense. Je pense qu'il y a plus une réaction d'ego où on te met une colonne, genre tu pourrais être meilleur là-dessus, et c'est plus celle-là qui m'a surprise. Et avec le recul, je trouve ça super intéressant.
Et en fait, cette colonne-là, elle est liée à l'autre colonne. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est bon sur l'analyse de l'exécution, on est forcément moins bon sur l'analyse de la vision. Parce que pour revenir au fonctionnement du cerveau, c'est des zones qui sont câblées de manière opposée dans le cerveau. Donc, on peut pas envoyer un signal électrique aux deux zones en même temps pour rentrer un petit peu dans le détail technique. Mais plus simplement, c'est l'un est lié à l'autre. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on peut pas être bon sur les deux en même temps. D'où l'importance de l'équipe. Et c'est quelque chose que tu évoquais tout à l'heure. Et justement, par rapport à l'équipe, est-ce que c'est de manière générale quelque chose qui tu penses te permettrait de légitimer, ou du moins de filtrer l'avis d'un autre investisseur sur un deal? Par exemple, Cyril Bertrand chez Xange, j'expliquais ça par rapport de la même manière, cette balance vision-exécution, où il disait moi, je suis assez exécution, et Nicolas Rose est beaucoup plus vision. Et il filtrait un petit peu les opinions, mais aussi il dirigeait les opinions en disant Nicolas, parle-nous un peu de la vision, comment toi tu la vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu te verrais faire?
Mais je pense que c'est un truc qu'on fait de manière un petit peu inconsciente, Tu vois, ouais, je sais que moi, sur certaines équipes, je vais dire, je te fais confiance. Là-dessus, je sais que ce que tu vas percevoir des trucs en plus, tu vois. Et je pense que c'est un truc qu'on fait de manière naturelle. Le truc que j'aimerais qu'on creuse là-dessus, tu vois, c'est il y a un truc qui est très difficile dans les fonds d'investissement, c'est la décision d'investissement, parce que il y a toujours donc une ou deux personnes qui vont pousser un deal, mais nous on décide de manière très collective, et du coup on a globalement toute l'équipe d'invest autour de la table et chacun donne son avis. Et on a une grosse réflexion en interne, tu vois, sur comment tu prends cette décision d'investissement. Est-ce qu'il faut faire confiance à une personne s'il y a une personne qui est très convaincue et toutes les autres qui sont contre, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que si tout le monde est un peu convaincu mais sans une conviction immense, il faut le faire aussi? Et on a essayé de bosser sur le, donc là aujourd'hui on est sur le second fonds, et donc on a eu un premier fonds de 28 entreprises, et on a essayé avec les notes, on garde tout à l'écrit, on a essayé avec les notes de rétro-engineer le truc et de dire ok, quel est le bon process de décision. Et je pense que c'est un truc qui a énormément de valeur. Nous, la conclusion aujourd'hui, c'est qu'un deal sur lequel tout le monde est d'accord, mais sans très grande conviction, ben en fait, c'est pas ceux qui ont donné le meilleur résultat. Alors encore une fois, on est en VC, hein, on a un échantillon de même pas 30 entreprises, on a un recul qui est à peine de 5 ans, donc pour certaines entreprises, il est de 2 ans. Donc on a évidemment pas la réponse, mais ça c'est un des learnings qu'on a eu en analysant ça et que je trouvais super intéressant. Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est qu'on peut aller un niveau plus loin dans la complexité. Il faut dire, OK, nous, dans nos critères, on a 4-5 critères. Il y en a un, c'est l'équipe. Et en fait, il faudrait surpondérer l'avis de certaines personnes sur l'équipe et surpondérer l'avis de certaines personnes sur le marché. Et en fait, il faudrait quasiment avoir une formule mathématique pour dire, tu vois, pour surpondérer sur les qualités de chacun. Et ça, c'est un exercice qu'il faudrait qu'on fasse. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans ta vie d'investisseur, tout ça, ça change un petit peu. En fait, quelqu'un qui fait ses premiers deals, il a pas du tout le même comportement que quelqu'un qui a déjà 10 deals. Il sait qu'il peut avoir maximum peut-être 12, 13, 14 entreprises en suivi pour le faire bien. Et en fait, il va choisir les équipes et les sujets de manière un petit peu différente. Parce que quand il va investir, c'est sa soirée, enfin, c'est un bout de son week-end de temps en temps qu'il va sacrifier. Je pense que ça modifie un peu la grille d'analyse. Et je sais pas si on peut rentrer dans ce niveau de complexité via des tests, mais je pense que c'est à prendre en compte aussi, quoi.
Ouais, complètement. T'as tous les facteurs exogènes qui influencent la manière dont on analyse les deals, ça c'est certain, ouais. Et justement, est-ce que ça te permet de mieux filtrer toi-même personnellement tes opinions quand tu rencontres un entrepreneur, cette analyse-là, c'est-à-dire de te concentrer effectivement sur ce que tu sais faire le mieux et puis te dire bah je vais prendre quelqu'un d'autre, puisque tu parlais de binôme chez Daphne, de dire j'ai quelqu'un d'autre qui va plus m'épauler sur la partie vision par exemple.
Ouais, non mais en fait c'est un mélange des deux, c'est un truc dont tu prends conscience au fur et à mesure. Moi ce qui ressort d'un de mes tests c'est openness, et je pense que c'est une autre manière de le dire, t'es un peu passionné partout. Mais c'est ce qu'on appelle multipotentiel. Alors c'est un peu, mais c'est, je suis passionné de manière très forte pour un sujet pendant un certain temps. Et du coup, j'ai eu tendance pendant probablement mes 18 premiers mois ou mes 2 premières années à regarder énormément de boîtes parce que je trouvais ça passionnant de parler avec cet entrepreneur qui avait telle vision du sujet et de comprendre comment ça marchait. Enfin, et c'est vrai qu'avec le temps, tu comprends quelle boîte, enfin tu vois, sur quelle entreprise tu vas être capable de te faire une conviction hyper forte, parce que le sujet c'est pas d'aimer un projet à 7, 8 sur 10 quoi, le projet c'est de l'aimer à 10 sur 10. Et en fait des boîtes et des entrepreneurs que tu peux où tu peux avoir vraiment envie d'être à 10 sur 10, bah c'est plus limité, tu vois, tu peux savoir assez tôt qu'il y en a certains sur lesquels tu n'arriveras pas à lever certains doutes sur certaines parties. Et donc, je pense que c'est un mélange. Je pense que le fait de savoir ça et de l'objectiver via la scorecard, c'est super intéressant. Et je pense que c'est aussi un process naturel où même sans avoir ça, tu le fais petit à petit. Mais ouais, il y a une forme, potentiellement, c'est un accélérateur assez fort de tout ça, quoi.
Et finalement, c'est cette connaissance-là, c'est un gain de temps et peut-être de précision sur... sur sa learning curve d'investisseur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
Mais carrément. Et de manière objective, j'aurais du mal à dire, tu vois, à quel point moi ça m'a aidé versus le process qui était un peu en cours où tu vois, je commençais vraiment à comprendre comment je fonctionnais. Mais ce qui est sûr, c'est que je le recommanderais. Je le recommanderais. Et ouais, moi ce que j'aurais envie de faire, c'est de le refaire plusieurs fois ce test pour comprendre dans quelle mesure ça peut évoluer. Peut-être que tu vas me dire que c'est figé, que c'est ton caractère, que ça n'évolue pas.
Alors c'est effectivement, il y a un peu de ça effectivement dans l'analyse qu'on a qu'on appelle OBA, Online Brain Analysis, qui donc se base sur le fonctionnement des différentes zones dans le cerveau. C'est une analyse qu'on propose effectivement une fois tous les 10 ans. La raison de ça, c'est que une zone dans le cerveau, c'est ce qui fait qu'on est talentueux à quelque chose et limité à quelque chose d'autre. Par exemple, il y a des zones qui sont responsables du fait d'analyser la vision en tant qu'investisseur, pour simplifier. Et donc, une zone comme ça, ça met 10 ans à peu près au minimum à se développer. Donc, c'est vrai que tu auras pas ou très très peu de variations entre deux analyses en moins de 10 ans.
Ah, ok, c'est intéressant parce que tu vois, quand tu ressens des... Enfin, c'est ce que je te disais, moi j'aurais jamais pensé foncer sur des deals Web3 justement qui peuvent être très moonshot et en même temps, vraiment, ouais, ils peuvent être incroyables et en même temps qui comportent un certain niveau de risque. Et c'est, tu vois, c'est pas forcément ce qui ressort aujourd'hui du test que vous donnez. C'est marrant et c'est pour ça que je pensais éventuellement que ça pouvait être refait. Peut-être t'as une manière d'interpréter ça toi, ou alors tu dis que peut-être que ce que j'interprète comme étant très vision est en fait une grande partie d'exécution.
En fait, c'est intéressant, c'est justement, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus le contexte et la situation qui a changé,
ouais,
que toi finalement. C'est-à-dire qu'effectivement ton avis a changé, mais c'est pas Stanislas qui a changé en tant que personne, c'est la situation a fait que t'as pu creuser certains domaines, comme par exemple le Web3 que tu évoquais, et comme tu as pu le creuser, maintenant t'es plus à même de prendre ce risque-là et d'investir sur ce sujet-là. Pour autant, ça veut pas dire que tu n'es plus exécution ou que tu n'es plus openness. Tu vois, par exemple, un profit decisiveness aurait peut-être été plus fermé à cette idée-là plus longtemps que toi. Mais finalement, tout le long, c'est ton côté ouverture, openness que tu évoquais, qui t'a permis peut-être de le creuser. Donc, c'est plus ça qu'on va regarder finalement. L'analyse, il y a certains points qui vont évoluer, mais qui sont exogènes. Par exemple, les profils openness tu évoquais sont souvent des personnes qui donnent trop de temps à des opportunités moyennes, c'est-à-dire que ils sélectionnent pas assez en amont les deals et donc ils finissent par plus avoir assez de temps puisqu'ils ont rencontré toutes les opportunités mais ils ont pas gardé assez de temps pour dire bah je prends pas celle-là parce qu'elles sont pas assez bonnes, ça me permet d'économiser du temps. C'est quelque chose qui est vrai surtout pour un investisseur openness qui vient de commencer. Mais plus ils évoluent dans leur carrière, moins c'est le cas puisqu'ils s'habituent, ils prennent des process pour pondérer ça. Mais pour autant, leur fonctionnement reste toujours le même. Ils sont toujours ouverts. Ils ont toujours envie de prendre toutes les opportunités. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair comme nuance.
Si, c'est hyper clair. Et en fait, juste avant, tu as dit un autre truc. Tu as dit, c'est parce que tu as creusé le sujet. Et c'est marrant, tu vois, on a fait ce deal dans l'assurance, là, Léo Kerr. J'avais passé 2 ans à rencontrer énormément de fondateurs dans l'assurance. Et pareil, la PropTech, tu vois, j'avais passé énormément de temps dans la PropTech à regarder tous les rapports, vraiment à creuser, tu vois. T'as deux deals, tu vois, t'as les deals opportunistes qui arrivent et tu t'intéresses à ce sujet à un moment. Puis t'as les deals où toi, t'es allé chercher, t'as retourné un peu toutes les ressources du sujet pour bien comprendre. Et ce que t'étais en train de dire, c'est que j'étais à l'aise quand j'avais retourné un peu tous les sujets. Et c'est assez marrant parce que moi, c'est une bonne partie des deals que j'ai fait qui correspondent à cette catégorie-là, quoi.
Et justement, je suis content que tu poses cette question de l'évolution des profils, puisque c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et nous, il y a à la fois la raison technique, qui est qu'effectivement, on met 10 ans à développer une nouvelle zone, qui fait qu'on donne pas accès moins d'une fois tous les 10 ans. Et il y a une autre raison qui est aussi plus philosophique, si on peut dire, mais en tout cas liée à nos croyances chez Unfair, qui est que l'objectif n'est pas de développer des choses qu'on n'a pas. Encore une fois, pour une raison technique, c'est que le cerveau, c'est des zones opposées. Donc, développer une zone, ça voudrait dire qu'on utilise moins une autre. Donc, c'est pas l'objectif. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment de composer avec ses forces. Et puis, ses limites, on les compense par d'autres personnes dans l'équipe. C'est ce que tu expliques avec les binômes, par exemple.
Et c'est super intéressant parce que c'est souvent vu comme un truc un peu individuel, le VC, où le succès, c'est une personne et tout. Alors que dans la vraie vie, tu vois, ça se passe pas du tout comme ça. Nous, tu as 3 rêve calls qui vont venir d'une personne. On va rencontrer les fondateurs à deux. Puis après, on va avoir toute l'équipe dessus qui est au moment du comité d'invest. Enfin, Et je trouve ça super intéressant parce que ça permet de mettre un peu de dans quelque chose qui est vu de manière très individuelle. Ça permet de remettre un peu la réflexion collective au cœur du sujet. Et je pense qu'il y a un truc, hyper important qui se joue là-dessus, quoi, sur la compréhension du fonctionnement de l'équipe. Et c'est exactement, enfin, c'est ce qui ressort de votre étude. Et je pense que c'est le cœur du sujet. Et c'est pas souvent celui qui est mis en avant, quoi.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est une très belle conclusion. Et justement, je pense que la performance des fonds viendra justement d'une bonne ou plutôt d'une manière plus ciblée de travailler en équipe. Merci beaucoup, Stan, pour ton témoignage.
Ben, merci beaucoup, Mathieu.
Et donc, si ça vous intéresse aussi, tu évoquais, Stan, la partie organisation des fonds et donc rétrospective un petit peu de ce qui marche le mieux. On a beaucoup parlé dans un précédent épisode avec Stanislas, justement, l'année dernière, de justement les méthodes d'organisation, notamment basées sur de la technologie, des métriques, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter cet épisode dont je vous mettrai le lien en description. Alors comme Stanislas, si vous souhaitez découvrir les talents entrepreneuriaux que vous détectez le mieux, vous pouvez découvrir notre analyse des biais sur notre site joinunfair.com ou dans le lien en description. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, nous évoquerons justement la manière dont on équilibre les biais en équipe et donc on en parlera avec Morgan d'Arkia Capital. Pour ne pas rater ça, pensez à vous abonner au podcast. À bientôt dans l'Iceberg.